Vous êtes sur RTL.
Yemi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble pour une heure. Voici les titres de ce lundi 2 août. Le nombre de décès pour violence intraconjugale au plus bas depuis 15 ans. 102 femmes, 23 hommes. Parmi les 102 femmes, une sur 5 avait porté plainte. Gérald Darmanin annonce un traitement prioritaire pour les victimes et la désignation d'un officier spécialisé dans chaque commissariat, chaque gendarmerie. Invité de RTL Midi, Ernestine René, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Emmanuel Macron une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, cette fois pour convaincre les rétifs à la vaccination. Évacuation des rave parties du week-end en Gironde et à Roibon en Isère. Nous serons dans cette ancienne ZAD de l'Isère pour constater l'évacuation des fêtards. Deux nouveaux petits pandas vous attendent aux eaux de Beauval. Nés la nuit dernière, les jumelles sont en bonne santé. L'espèce animale est-elle encore en danger? Nous ferons le point avec le pambassador. Et oui, c'est comme ça qu'on dit, le pambassador Jérôme Pouille. De l'or au tir, du bronze en équitation, une déception aux anneaux. Une médaille d'or pour notre tireur Jean-Ki Campois. La troisième marche du podium pour l'équipe de France en équitation au concours complet. Mais des pleurs et une quatrième place pour notre gymnaste Samira Aït Saïd. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Alors cet après-midi, encore des nuages.
Oui, il va falloir compter avec, hein. Surtout pour une bonne moitié nord. Le ciel sera bien couvert, pouvant lâcher par endroits quelques averses, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Par contre, ça sera un petit peu plus fréquent vers la Normandie, la Bourgogne, les Hauts-de-France, avec une tournure orageuse. En revanche, plus on va vers le sud, plus les éclaircies vont devenir franches et même très belles des Landes en direction de la Méditerranée, mais au prix du vent, 70 km/h. Et puis côté température, c'est encore pas vraiment ça. Il faudra compter entre 19 et 30 degrés, 19 degrés pour Brest et 30 degrés du côté de Nîmes.
On rajoute un petit pull dans le nord.
Ah oui, essentiel.
Essentiel. Merci Claire, à tout à l'heure. La question du jour, violence conjugale. Les annonces de Gérald Darmanin sont-elles suffisantes? Vous dites oui à 15%, non 65%. On attend vos appels au 3210. Vos rendez-vous d'ici 13h30. Dans 20 minutes, comme tous les lundis, votre chronique sur les grandes découvertes médicales qui ont révolutionné notre quotidien aujourd'hui, la contraception. Et puis un peu après 13h, la table à Langer. Isabelle Langer se penche sur l'enfance du karatéka Steven Dacosta. Restez avec nous, vous êtes bien sur RTL.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Vous avez consulté les réseaux sociaux ce matin. Vous avez peut-être vu la vidéo de ce vacancier du fort de Brégançon sur TikTok, sur Instagram. Emmanuel Macron s'adresse aux sceptiques de la vaccination. Il propose même de répondre directement à leurs questions, Jacques Serret.
Oui, le chef de l'État en t-shirt noir depuis sa résidence d'été tient son smartphone en main et se filme devant un drapeau tricolore. Un court message vidéo d'une quarantaine de secondes dans lequel Emmanuel Macron s'adresse à tous ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.
Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Vidéo publiée sur Instagram et sur TikTok, ce qui est loin d'être un hasard, c'est particulièrement sur ces réseaux sociaux que les fausses informations circulent. Et le gouvernement l'assume, Emmanuel Macron veut aujourd'hui convaincre les jeunes à se faire vacciner, fait savoir un conseiller. Les services de l'Élysée prendront note des questions envoyées en commentaire. Et selon nos informations, Emmanuel Macron y répondra lui-même dès cette semaine en commentaire ou dans une nouvelle vidéo.
Jacques Serret du service politique de RTL. J'ajoute que ce matin sur RTL, le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, estimait possible d'atteindre l'immunité collective avec 90% de la population vaccinée au début de l'automne. Un nouveau féminicide, hier midi, dans l'Aveyron, à Calmont. Une femme a été tuée à l'arme blanche, son conjoint a été retrouvé blessé, il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Patrick Tégéraud, les enquêteurs de la gendarmerie sont sur les lieux du drame.
Oui, ils ont retrouvé l'arme et ils tentent désormais de comprendre. Les deux corps ont été aperçus par des VTTistes hier vers midi. Ils ont immédiatement prévenu les pompiers et les gendarmes. Les corps gisaient dans le lit de la rivière Le Vieur, à 10 mètres du pont de Calmont. Elle a été poignardée et il aurait retourné l'arme contre lui. Il a survécu et il est hospitalisé dans un état très critique. Les gendarmes enquêtent aussi à 20 km de là, à Rulac-Saint-Cyr, un village de 400 habitants seulement, où vivaient le couple et leur famille. Il est éleveur. Elle travaille à Rodez dans une association d'aide aux handicapés. Les témoignages de la famille et des voisins devraient préciser le contexte du drame. Les gendarmes comptent aussi sur le témoignage du blessé s'il survit. Lui seul sait précisément comment et pourquoi sa compagne, âgée de 48 ans, a perdu la vie hier.
Patrick Tégéro pour RTL. En 2020, l'année dernière, 102 femmes, 23 hommes ont été tués par leur conjoint ou conjointe ou ex. Tous les trois jours, un drame conjugal. Certes, les chiffres sont historiquement bas depuis 15 ans, depuis que ces statistiques existent, mais il n'en reste pas moins insoutenable. Ce matin, dans Le Parisien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce rendre prioritaires les plaintes pour violences conjugales. Il va augmenter également la rémunération des officiers de police judiciaire pour rendre le métier attractif, pour renforcer les brigades de protection des familles. Invité de RTL Midi, Ernestine René, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. Madame René, comment accueillez-vous ces annonces du ministre ?
Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de très important. D'abord, il y a trois choses importantes. La première, je dirais, c'est quand même la baisse du nombre de femmes tuées. Et je voudrais dire tout de suite que ça me paraît très important, même si, évidemment, on espère que ça baisse beaucoup plus encore. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'annonce d'avoir des policiers et des gendarmes spécialisés dans les commissariats et les gendarmeries est important. On en reparlera, j'imagine. Mmh. Et puis, la troisième idée que je retiens, c'est que c'est le premier motif de plainte. Ça, c'est ce que nous disons depuis longtemps. Il s'agit d'un véritable problème de société qui commence à être mieux perçu par toute la société et par les femmes elles-mêmes. C'est pourquoi elles portent davantage plainte.
Parce qu'aujourd'hui, les plaintes pour violences conjugales ne sont encore trop négligées.
Et oui, elles passent parfois dans le panier en dessous. Du fait que, finalement, une plainte pour violences conjugales demande des investigations plus importantes que, par exemple, une plainte pour un téléphone portable volé. Donc on voit bien que le nombre d'affaires élucidées ou d'affaires prises est un sujet, vraiment. Donc ça demande d'avoir des policiers et des gendarmes en nombre suffisant, formés et, je dirais même, sélectionnés. Parce qu'on voit avec l'affaire de Mérignac où un policier a pris une plainte alors qu'il était lui-même auteur, oui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment sélectionner les personnes, les former, qu'ils soient volontaires, et là on aura de meilleurs résultats.
On va y revenir à Mérignac. Mais d'abord, à propos des chiffres, on redoutait une explosion des chiffres pendant le confinement. Ça n'a donc pas été le cas.
Eh bien vous savez, il y a eu une campagne magnifique du gouvernement sur les ondes de la radio, de la télé, et on a qui disait vous pouvez appeler le 17, le 114 si vous ne pouvez pas parler par SMS et le chat arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et je pense que ça a porté ses fruits. Et puis on a mobilisé toute la société, les voisins, les amis, la famille, les collègues de travail. Et ça, ça a été très efficace. Et je regrette que pour 2021, oui, on n'ait pas eu la même campagne. En 2020, on a eu une campagne qui a été remarquable. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Tous
lâcher.
Les ans, on a une véritable campagne.
Il ne faut jamais lâcher. Il faut continuer. Le nœud du problème, ce n'est pas plutôt du côté de la justice qui se trouve avec la lenteur du traitement des dossiers ?
Il se trouve de tous les côtés. Parce que une plainte bien prise va donner des poursuites. Et les poursuites vont donner des sanctions. Donc il y a besoin d'avoir des policiers formés, sélectionnés, des magistrats formés, sélectionnés, volontaires. Partout, on a besoin d'avoir des personnels qui soient impliqués sur le sujet et en nombre suffisant. Et nous savons que nous manquons cruellement de forces de sécurité et de magistrats pour s'occuper de ce problème.
Alors on revient, si vous le voulez bien, sur le drame de Mérignac. L'ex-conjoint de Chahinez, brûlé vive, vient donc de mettre le feu aussi à sa cellule. Il est aujourd'hui en hôpital psychiatrique. La plainte de Chahinez avait été mal enregistrée. Le rapport de l'inspection générale de l'administration doit-il être rendu public rapidement? Est-ce que vous l'attendez?
Oui, bien sûr qu'on attend. Moi, je pense que la transparence dans ce domaine est très importante. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est important pour les policiers, les magistrats, les gendarmes, pour tout le monde, de savoir ce qui s'est passé, d'en tirer les conséquences, et donc d'un dysfonctionnement, essayons de trouver des dispositifs qui soient efficaces. Et ça, ça demande de la transparence, parce que tant que c'est caché, ça n'est pas quelque chose dont on peut tirer des enseignements qui vont permettre de mieux protéger les femmes. Le maître mot, c'est protéger les femmes. Quand une femme porte plainte, quand une femme se signale aux forces de sécurité ou à la justice, il faut qu'elle soit protégée avant la sanction. Vous me dites que c'est long la sanction, oui. C'est vrai, parce que ça demande à ce moment-là des investigations. Mais la protection, ça peut être tout de suite. Et il faut qu'on pense qu'il n'y a pas de petite violence. On ne sait jamais quand un homme violent va passer à l'acte le plus grave. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont dangereux. Et donc, il faut absolument considérer que la violence psychologique, physique, sexuelle est dangereuse. Et donc protéger les femmes.
Dès la première étape.
Dès la première violence révélée.
Merci beaucoup.
Jamais la première violence subie.
Merci beaucoup Ernestine René d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Merci à vous.
Je vous remercie.
Une pause et dans un instant, on baisse le son et on évacue les rêves partis.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Il est midi et 42 minutes sur RTL. Les rêveurs de ce week-end commencent à fatiguer, mais certains dansent encore au rythme de la techno. C'est le cas près du Barp, dans une forêt de Gironde. Les tout derniers participants sont en train d'être évacués. C'est le cas également à Roibon, dans l'Isère. 5000 personnes s'étaient donné rendez-vous dans l'ancienne ZAD pour cet événement non déclaré, comme l'exige la réglementation. Frédéric Perruche, vous êtes sur place ce midi. Là aussi, l'heure est à l'évacuation.
Exactement, évacuation naturelle, pas d'intervention des forces de l'ordre, trop risquées évidemment, qui ont donc bloqué les accès à cette rêve partie sur les hauteurs de Roibon qui dure depuis 48 heures. Plus personne ne peut passer et les gendarmes contrôlent systématiquement tous les fêtards qui quittent les lieux, à pied ou en voiture. Il serait encore un petit millier sur place à prolonger la fête techno. Contrôle donc des voitures, des papiers, ouverture des coffres, fouille sur 550 véhicules depuis hier après-midi, assorti de nombreuses verbalisations, une centaine, une dizaine pour alcoolémie, 50 PV pour détention de stupéfiants, une trentaine pour conduite sous stupéfiants et quelques infractions diverses. Tout se passe dans le calme, mais les derniers teufeurs n'ont semble-t-il pas l'intention d'arrêter la fête avant demain matin. Les gendarmes cherchent également à identifier les organisateurs de ce rassemblement non autorisé.
Merci Frédéric. Les précisions de Frédéric Perruche à Roibon pour RTL. Interdite en janvier, la circulation des deux roues entre deux files de voitures est à nouveau autorisée, cette fois pour une expérimentation de 3 ans. C'est valable dans 21 départements à partir d'aujourd'hui. Les motos peuvent donc doubler les voitures quand la circulation ralentit. Les premiers concernés, les motards, ne comprennent pas pourquoi ce besoin d'une deuxième expérimentation. Écoutez Jean-Marc Bellotti, c'est le président de la Fédération des motards en colère de Paris.
Pourquoi au bout de 5 ans d'expérimentation, on revient à une nouvelle expérimentation? Tout simplement parce que les analyses n'ont pas été bien faites, d'après les sécurités routières, et qui voudraient des chiffres encore un petit peu plus parlants. Vous savez ce que c'est? Nous sommes en France, il faut absolument que tout soit réglementé, et même ce qui fonctionne très bien doit être réglementé. Bon, la circulation interfile fonctionne très bien. Effectivement, on n'avait pas forcément besoin d'une nouvelle expérimentation. On va la faire. Mais nous, ce que l'on veut, c'est effectivement que cette pratique soit légalisée à l'issue de ces 3 ans, parce que c'est une pratique qui, effectivement, est évidemment une bonne pratique, aussi bien pour les usagers de roues motorisées que pour les automobilistes à qui on va laisser beaucoup plus de place que si on était dans la file. Rouler entre les files, c'est pas dangereux à partir du moment où c'est maîtrisé et c'est fait de façon correcte. C'est juste qu'il faut évaluer la vitesse en fonction de la situation dans laquelle on se trouve.
Jean-Marc Bellotti, des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. Vous êtes motard, vous êtes automobiliste, que pensez-vous de ces dépassements? Faut-il les réglementer? Faut-il les interdire? Nous vous attendons au 3210, ça sera après 13h. En Chine, le bilan des inondations est revu à la hausse. 302 morts, 50 disparus. Souvenez-vous, le 20 juillet dernier, la pluie s'était abattue sur Zhengzhou, engloutissant une rame de métro et un tunnel routier. Plus près de chez nous, en Turquie, l'Union européenne vient d'envoyer 3 bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies qui ravagent le sud du pays. 130 feux en 6 jours seulement. RTL de retour au Liban. Dans deux jours, nous commémorons le triste premier anniversaire de cette explosion du port de Beyrouth. Le 4 août 2020, 200 personnes ont été tuées, 6500 blessées. Et au bout d'un an, le Liban s'enfonce dans la pire crise économique et sociale de son histoire. Conséquence, la pénurie touche l'ensemble des Libanais. La moitié vit désormais sous le seuil de pauvreté. Les médicaments sont introuvables. Écoutez le casse-tête quotidien de ce pharmacien de Tripoli, qu'a accompagné notre envoyé spécial Alice Moreno.
Quand il arpente les rues de son quartier en voiture, Ahmed, pharmacien depuis 3 ans, est très vite arrêté par d'autres automobilistes. Ils lui tendent des ordonnances à bout de bras.
Je n'ai pas le médicament sur l'ordonnance, c'est du Colir pour les infections des yeux.
Identifié grâce à son caducé sur le tableau de bord, le rideau de son officine est pourtant baissé depuis des semaines.
Avant, nous recevions un peu de médicaments, mais depuis 2 mois, plus rien. Si quelqu'un a besoin d'un médicament, il doit faire une centaine de pharmacies pour trouver.
Il gare alors sa voiture devant la pharmacie d'un ami, l'une des rares encore ouvertes. Mais ici, Samir, le propriétaire des lieux, fait bien vite l'inventaire.
Paracétamol, il n'y a pas. Every night, I want to sleep.
Chaque soir, quand je me couche, je me sens coupable de ne pas avoir les médicaments pour les gens.
La culpabilité encore et toujours face à Aïda, 60 ans, qui repart bredouille.
Ma petite fille a une infection au pied, ça fait 2 mois qu'elle souffre. Et on ne lui trouve pas d'antibiotiques.
Vous avez fait combien de pharmacies déjà ?
5.
Je ne sais pas où je vais trouver, je ne sais pas ce qu'on va faire.
En parallèle, le marché noir du médicament explose. Des génériques parfois dangereux, importés d'Iran ou de Syrie, se retrouvent entre les mains des Libanais.
Le reportage d'Alice Moreno, envoyé spécial de RTL au Liban. Tout de suite, direction les Jeux Olympiques.
RTL à Tokyo.
23 médailles pour la délégation française. Il y a une demi-heure, c'est l'équipe de France d'équitation qui a décroché le bronze au concours complet derrière la Grande-Bretagne et l'Australie. En revanche, grosse déception de notre porte-drapeau, Samir Ait Said, il y a 2 heures. 4e seulement aux anneaux sur le podium, 2 Chinois et 1 Grec. Samir Ait Said a été blessé, mais il est allé jusqu'au bout, Isabelle Langer.
Ah oui, il aurait pu déclarer forfait, sauf que ce n'est pas le genre de la maison. Samir Ait Said pensait même que l'adrénaline de cette finale lui permettrait de passer outre la douleur. Une douleur apparue dans le biceps gauche il y a 3 jours à l'entraînement. Depuis, le Français n'avait plus touché les anneaux. Juste avant son passage, le kiné lui a posé un garrot. Samir a alors serré les dents et réalisé son mouvement. 54 secondes de souffrance. Mais il n'a rien voulu laisser paraître. À la sortie, malgré un petit déséquilibre, il avait même le sourire. Il semblait satisfait. Mais ce n'était que du soulagement. Le biceps n'a pas lâché. Pour autant, cela n'a pas suffi pour arracher une place sur ce podium. Cette 4e place, je ne la mérite pas, nous a-t-il affirmé les yeux rougis. On lui rétorque alors qu'il mérite la médaille du courage, mais lui dit s'en foutre et nous prévient « C'est pas fini, vous savez pas de quoi je suis capable, j'ai fait des sacrifices, j'en ai bavé, je finirai par l'avoir cette médaille, chez moi, dans mon pays. Rendez-vous dans 3 ans à Paris. »
Rendez-vous est pris, Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL à Tokyo. Pas de médaille aux anneaux, mais de l'or au pistolet à 25 mètres tir rapide. Victoire magistrale de Jean-Ki Campoy, le Français de 25 ans, toujours aussi calme face à la pression. Bonjour Nicolas Burnan.
Bonjour. Oui, le Français a structuré sa vie autour de sa performance. Au quotidien, le gendarme, maréchal des logis, s'impose une rigueur absolue, une hygiène de vie parfaite, jamais d'écart, des sorties de 80 km à vélo pour monter en charge à l'entraînement. Prêt à tous les sacrifices, il a commencé le tir à l'âge de 10 ans. Originaire de Paris, Jean-Ki Campoy a déménagé à Marseille pour se rapprocher du centre d'Aloche et se préparer aux Jeux Olympiques. Hervé Caratou est son entraîneur depuis 10 ans.
Il tire entre 45 000 et 50 000 cartouches par an, ce qui représente des entraînements entre 350 et 400 cartouches par jour, et ça toute l'année. Depuis longtemps, Jean a une réelle capacité de tirer la finale. C'est un jeu qui le transcende. Il sait canaliser les émotions et il sait les utiliser à son avantage, où d'autres sont déstabilisés. Lorsqu'il reprend la main, ça devient un booster.
Mâchoire carrée, cheveux ras, toujours dans le contrôle. Le français est un garçon poli, blagueur, on le dit, capable d'imiter de nombreux accents, mais pas d'effusion de joie lorsqu'il raconte son succès. La finale perdue à Rio en 2016 avait été un regret pour lui, mais surtout une motivation supplémentaire pour décrocher aujourd'hui l'or au bout du canon et déjà Paris dans le viseur en 2024.
Et merci beaucoup Nicolas Burnon, notre autre envoyé spécial. À noter également pour demain, le retour de Simone Biles, la superstar américaine qui avait renoncé à 4 finales. Elle sera bien demain présente pour l'épreuve de poutre, selon la liste des engagés qui vient d'être publiée. Et puis attention, c'est un colosse doublement médaillé qui sera ce soir sur l'antenne de RTL en studio, Teddy Riner, invité exceptionnel de On refait les Jeux à 18h30 avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Des Jeux Olympiques marqué par cet incident diplomatique. L'athlète bélarusse Kristina Tsimanouskaya vient de demander l'asile politique à la Pologne. La sprinteuse de 24 ans était victime d'un retour forcé dans son pays pour avoir critiqué sa fédération. Elle vient de passer la nuit à Tokyo dans un hôtel de l'aéroport sous haute sécurité. C'est ce qu'assure le Comité international olympique. Ils pèsent respectivement 149 et 128 grammes. Les 2 bébés pandas nés la nuit dernière au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher sont en parfaite santé. Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus en danger d'extinction. On va voir ça avec Jérôme Pouille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Chengdu Pambassadeur, c'est bien ça?
Oui, c'est exact.
Et auteur du site www.panda.fr. Vous êtes au téléphone parce que vous êtes en route pour Beauval. Je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà.
Alors, je suis arrivé il y a une dizaine de minutes.
Ah, donc vous êtes arrivé.
Je suis à Beauval. Je ne suis pas encore à côté des pandas, mais je suis à Beauval.
C'est encore un événement, je l'imagine, une naissance de panda.
Oui, tout à fait, ça reste un événement. Alors déjà, c'est la seconde fois uniquement sur le territoire français qu'on a une naissance de panda, après celle de 2017. Et malgré tout, les naissances à l'étranger en particulier restent toujours un événement, car relativement rare. Donc c'est à la fois une satisfaction et une réussite pour Beauval d'avoir ces jumeaux pandas.
Combien de pandas en captivité aujourd'hui? Combien de pandas à l'état sauvage?
Alors en captivité, on a entre 500 et 600 pandas. La très grosse majorité d'entre eux se situe en Chine. Et dans le milieu naturel, on a environ 1864 pandas sauvages. Donc c'est un petit peu plus que 10 ans auparavant. Donc ça signifie en effet que les populations aujourd'hui se sont stabilisées en termes d'effectifs, voire ont une légère tendance à l'augmentation. Ce qui peut expliquer en effet que l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est l'autorité pour évaluer le statut de menace des espèces, ait déclassé le niveau de menace qui pesait sur les épaules de l'espèce.
Alors, le père et la mère ont été prêtés par la Chine pour 10 ans au zoo de Beauval, en France. Oui. Ces pandas vont-ils rentrer dans leur pays natal l'année prochaine ou alors vous espérez les garder encore un peu?
Alors, moi, j'espère les garder encore un peu, mais Beauval a déjà fait savoir l'an dernier qu'ils avaient entamé des négociations avec la Chine, en effet, pour conserver les 2 adultes qui sont arrivés en 2012. Par contre, en effet, les jeunes pandas qui naissent à l'étranger sont amenés à rejoindre la Chine avant leur maturité sexuelle. Parce que, bien entendu, il serait pas acceptable qu'ils se couplent soit avec leur père, soit avec leur mère. Donc, ils sont intégrés au programme d'élevage en captivité en Chine.
Alors, merci beaucoup, Jérôme Pouille. On vous laisse aller rejoindre ces petits pandas. Vous nous enverrez un petit peu des photos pour le site RTL.fr.
Très bien.
Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Midi.
RTL. Ces découvertes qui ont changé nos vies.
C'est la chronique que nous retrouvons tous les lundis de cet été. Et aujourd'hui, Agathe Landé se penche sur la contraception. Pilules, stérilets, implants. Les femmes disposent aujourd'hui de plusieurs solutions efficaces pour ne pas tomber enceinte. Un choix qui leur a été offert il y a 54 ans avec la loi Neuwirth qui a autorisé la contraception dans notre pays.
RTL 2e, Jacques Alba.
Les députés français ont offert un cadeau de Noël à toutes les Françaises. La pilule est donc légale à partir de ce matin.
Nous sommes en décembre 1967. À 5 jours de Noël, les femmes obtiennent le droit à la contraception. De quoi animer de vifs débats autour de la bûche, tant le sujet était loin de faire consensus à l'époque.
Il faut donc savoir maintenant si les femmes en France se sentent libérées.
Moi, je ne suis pas du tout pour. J'ai passé l'âge de ces choses-là. Personnellement, non, je suis tout à fait contre, alors je m'en servirai pas. surtout c'est très curieux et très nouveau, mais je ne crois pas que ça mène à grand chose de bon.
Je reconnais aux femmes le droit de nuire à leur propre santé, ça les regarde, mais je ne leur reconnais pas le droit de risquer de nuire à leur descendance et à entraîner éventuellement une dégénérescence de l'espèce humaine.
Au fil des années, la pilule s'impose finalement comme libératrice pour les femmes, analyse aujourd'hui le gynécologue obstétricien Israël Nizan.
La pilule a été un événement de type révolutionnaire qui a séparé la sexualité de la reproduction. La pilule a évolué de manière incroyable depuis les années 60, date de leur invention, jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était des doses bien plus importantes et des produits moins bien tolérés.
Malgré cela, elle devient chaque année de plus en plus populaire, jusqu'en 2013, où un épisode va entacher l'image de la pilule.
Faut-il restreindre l'accès aux pilules contraceptives de troisième génération ?
Ces pilules de troisième et même de quatrième génération peuvent entraîner des risques de thrombose, de caillots dans le sang.
Plusieurs dizaines de plaintes doivent être déposées dans les jours qui viennent.
Au planning familial où vous vous êtes rendu, on peut même parler de vent de panique.
Oui, les bénévoles sont débordés d'appels, presque toujours des femmes sous pilule, totalement paniquées par les événements.
On leur a dit qu'il y avait des femmes qui étaient mortes, elles ont peur quoi.
Et conséquence de cette polémique, les ventes de pilules reculent. Début 2013, 45% des femmes avec une contraception choisissaient la pilule. 6 ans plus tard, elle n'était plus que 33%. Les explications du professeur Israël Nizan.
Cet événement est venu couronner une augmentation de la défiance à l'égard des hormones d'une manière générale. Tout le monde s'est rendu compte que la pilule, c'est pas des bonbons, qu'il y a une consultation médicale en amont, et puis les hormones ont mauvaise presse.
Ça, c'est encore vrai aujourd'hui, ou est-ce que finalement la pilule a un peu regagné en popularité depuis ?
La pilule n'a pas regagné en popularité. On voit énormément de femmes qui nous disent « Ah non, les hormones, non, c'est pas pour moi ». Il n'en reste pas moins que le plus utilisé est toujours la pilule.
Loin devant les préservatifs, les implants ou encore les stérilets, 53 ans après la légalisation de la contraception en France, il existe aujourd'hui une solution adaptée à chaque femme. Et pourtant, on enregistre encore dans notre pays 232 000 avortements par an.
Ça veut dire que sur 4 fécondations dans notre pays, il y en a une qui amène un avortement et 3 qui amènent à une naissance. Si on estime que c'est mieux de faire une contraception que de faire une IVG, alors on rend la contraception gratuite. Mais on n'a fait aucun effort pour que la contraception coûte moins cher. Et si on avait voulu que l'avortement baisse, on aurait institué de l'information à la vie sexuelle et affective dans les écoles. La loi le prévoit, elle n'est pas appliquée.
En 2001, ces cours d'éducation sexuelle dans les écoles deviennent obligatoires. Mais 15 ans plus tard, en 2016, 25% des établissements ne les avaient toujours pas mis en place.
Et Cyndi Lauper, pour conclure cette chronique, les découvertes médicales qui ont changé nos vies. C'est une chronique à retrouver sur le site rtl.fr ou alors sur notre appli RTL. Une pause, dans un instant, votre ciel pour cet après-midi. RTL. La météo claire de l'Orme, il fait encore bien frais pour un début août.
Ah oui, on est même très juste. Hein. Regardez, 19 degrés à Brest, seulement 21 degrés à Lille, 23 degrés à Paris, 24 degrés à Lyon, 28 degrés en revanche du côté de Marseille, 30 degrés à Nîmes. Donc vous l'aurez compris, la Méditerranée reste, on va dire, avec une ambiance estivale. Partout ailleurs, eh bien, les nuages seront encore de la partie pour une bonne partie de l'après-midi, surtout sur une moitié nord, ils vont dominer. Ils pourront même lâcher par endroits quelques averses qui seront beaucoup plus fréquentes, hein, vers la Normandie, l'Île-de-France ou encore en direction de la Bourgogne, avec en prime, s'il vous plaît, une tournure orageuse. En revanche, plus on va vers le sud, plus ça sera un partage d'éclaircies, de passages nuageux, mais les éclaircies seront beaucoup plus franches et même honnêtes, agréables, on va dire, des Landes en direction de la région PACA, en passant par les plaines du Languedoc, mais quand même accompagné de ce vent jusqu'à 70 km/h.
Et demain clair, mais c'est pire.
Ah bah demain, j'ai envie de vous dire que oui, en effet, hein, ça sera pas vraiment, on sera pas vraiment à la fête. Hein, en prime, on va même avoir de la pluie sur toute la façade ouest du pays. L'instabilité restera de mise sur le quart nord-est. Par contre, quand même, le beau temps restera de mise en Méditerranée.
Merci Karine. Claire, pardon. Merci beaucoup Claire. Je ne sais pas pourquoi je vous appelais Karine. Vous aviez une tâte à écouter. Vous appelez Karine aujourd'hui. Excusez-moi Claire. Vous écoutez RTL, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bénédicte Tassard.
Vous avez la parole dans quelques minutes, mais d'abord le rappel des titres de l'actualité. D'abord les Jeux Olympiques, bien sûr, en direct sur RTL. Et du bronze pour l'équipe de France d'équitation en concours complet par équipe. Écoutez la joie de Karim Lagouague de cette équipe de France.
Ouais, ouais. On a le bronze. Bonjour, si. Micro. C'est comme un Walt Disney, là, que je suis en train de vivre. C'est une chance inouïe. J'avais pas prévu de venir, en fait. Puis comme j'ai été invité par Thierry Touzard, bah, je suis venu.
Kamel Boudra, bonjour. Bonjour Kamel Boudra. On vous retrouve tout de suite pour commenter un petit peu cette équipe.
Absolument.
D'abord, cette victoire. Bonjour, oui. À vous.
Bonjour. 5 ans après l'or, hein, surtout voilà. Cette équipe de concours complet de Rio. Souvenez-vous, elle avait été la première équipe à remporter une victoire par équipe, justement, au Brésil. Elle récidive cette année avec un autre podium à Tokyo. En bronze, cette victoire a de la saveur parce que il faut dire que juste avant de partir, le couple Thibaut Valette avec King Dubrio, leader de l'équipe de France, s'est très légèrement blessé, pas grand-chose, mais Thierry Touzin, le sélectionneur, a décidé de ne pas l'emmener. Et puis, il est parti avec une équipe. Dans cette équipe, le deuxième leader, Thomas Carlyle, avec sa jument incroyable, Birman. La jument est arrivée là-bas, elle nous a fait un petit peu de frayeur, un petit coup de pompe. Rien de grave, elle va très bien, mais bon, elle a été forfait. Donc, le premier, c'est le deuxième réserviste qui est arrivé dans cette équipe pour enfin signer cette compétition absolument incroyable. Compétition par équipe remportée par les Britanniques, largement devant. Et entre l'Australie et la France, il y a un point, donc vraiment absolument rien. Vous savez, c'est le triathlon des sports d'équestre, hein, c'est dur, c'est très difficile. On commence par le dressage, ensuite on avait 7 minutes et demie de cross avec une quarantaine d'obstacles à franchir, plus les obstacles de ce matin. Et un point, c'est par l'argent du bronze, mais c'est vraiment une très très belle victoire. Il faut signaler quand même que la France est l'une des plus grandes nations de l'équitation et du concours complet, et que Thierry Touzin, le sélectionneur, est là depuis plus de 20 ans et qu'il a un des plus beaux palmarès au monde, hein, champion du monde, champion olympique plusieurs fois. C'est une équipe qui s'inscrit dans la durée et elle n'a pas dit son dernier mot puisque dans quelques minutes, il y a la finale individuelle où il y a deux Français, un trier surtout, Christopher Six avec son gris Totem de Bressé qui est à la 6e place, à une faute d'un podium. Donc la France n'a pas encore dit son dernier mot pour ce concours complet.
On va suivre ça, merci beaucoup Kamel. 23 médailles au total pour l'instant pour la France. On rajoute aujourd'hui une belle médaille d'or en tir pour Jean-Ki Campois. Les pleurs de rage et de douleur de notre porte-drapeau Samir Aït Saïd, 4e aux anneaux. La vidéo d'Emmanuel Macron diffusée ce matin sur Instagram et TikTok, le président veut répondre directement aux sceptiques de la vaccination. Ce matin sur RTL, le professeur Fischer n'excluait pas une troisième dose pour les plus fragiles en septembre et il estimait possible d'atteindre l'immunité collective avec 90% de la population vaccinée au début de l'automne. Les violences conjugales, les féminicides au plus bas depuis 15 ans. En 2020, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce une priorisation des plaintes. Ce sont des jumelles, elles vont bien et elles vont attirer les foules. Deux nouveaux bébés pandas sont nés la nuit dernière au zoo de Beauval. L'espèce des pandas géants n'est plus en danger d'extinction mais reste vulnérable. 32-10, nous serons ensemble dans quelques minutes. Nous sommes ouverts jusqu'à 13h30 pour vous entendre sur l'actualité du jour. Emmanuel Macron sur Instagram répond aux sceptiques de la vaccination. Allez-vous l'interpeller? Trouvez-vous efficace ce mode de communication alors que 53% de la population française est vaccinée avec deux doses? Les nouvelles règles de circulation pour les deux roues entrent en vigueur aujourd'hui dans 21 départements pour une période de 3 ans. Les motards peuvent à nouveau circuler entre les files de voitures à condition de ne dépasser de 30 km/h le véhicule qu'ils doublent. Cette législation est-elle trop difficile à appliquer? Efficace, dangereuse, nous attendons votre avis. Les violences conjugales, les plaintes déposées par les femmes doivent-elles traitées prioritairement? Le gouvernement fait-il assez pour protéger les victimes? 32-10, les auditeurs ont la parole. Ce sera juste après notre chronique olympique.
La table allongée sur RTL.
Et sur la table allongée d'Isabelle Langer aujourd'hui, un futur karatéka, Steven Dacosta, vu par sa maman Dominique. Steven Dacosta, champion du monde 2018, il tentera de remporter l'unique titre olympique de sa discipline. Ce sera jeudi, Isabelle.
Chapitre 1, jumeaux.
Dominique Steven est né le 23 janvier 1997. Vous vous souvenez forcément de ce jour-là?
Effectivement, on est obligé, surtout quand on a des jumeaux.
Il pesait combien à la naissance?
Alors, Steven pesait 2,6 kg et Jessie 2,4 kg.
Et on fait vite
La différence de qui est qui?
Oui, parce que Jessie était plus menue déjà, et Steven c'était une boule. D'ailleurs, le surnom, je l'appelle souvent la boule, alors que maintenant, pas du tout quoi.
Ils ont un grand frère.
Hein. Logan.
Chapitre 2, gourmand et hyperactif.
Steven, c'était un bébé sage, un bébé capricieux?
Oui, bébé, c'était un bébé sage. Quand il a commencé à marcher, c'était différent.
Sa chambre d'enfant, ça ressemblait à quoi?
Plein de nounours, surtout un grand nounours. Ils ont commencé le karaté à 4 ans, donc ils s'entraînaient à faire du karaté sur son nounours.
Il faisait des bêtises?
Oh là là, oui. Mais il faisait des bêtises. Disons que déjà, il était gourmand, donc il était tout le temps parti chercher des bonbons. Il se cachait, enfin bref, il se mettait sous la table pour manger du chocolat. Il bougeait tout le temps, il faisait du vélo, il dévalait les pentes. Moi, j'avais une trouille pas possible. Il jardinait, il bricolait les vélos. Il y avait des outils partout sur le terrain. Enfin voilà, oui, il aimait bien toucher un peu à tout, quoi.
À l'école, c'était un bon élève?
Ouf. Déjà, il avait un énorme problème de concentration. C'était un petit peu compliqué, l'école.
Il a eu son bac.
Quand même. Oui. Bon, on précise quand même.
Chapitre 3, une affaire de famille.
Le karaté, c'est une affaire de famille. Même le papa s'y est mis.
C'est Logan qui a entraîné la famille dans le karaté. Et mon mari s'y est mis par la force des choses.
Du coup, vous vous retrouvez avec 4 karatékas à la maison. Ils en font un peu dans les pièces, là?
Non, la maison, c'est la maison. Par contre, les débriefings, oui, c'est à la maison. On parle beaucoup de karaté à la maison. Quelquefois, ça pleure, ça crie, ça rit. Mais en fait, une fois que la discussion est terminée, personne ne va se faire la tête. C'est terminé, on n'en parle plus.
Chapitre 4, la face cachée de Steven.
Sa plus grande qualité.
Généreux.
Son plus gros défaut.
Quand il est fâché, c'est une tête de mule. Il faut vraiment un débat pour qu'il arrive à changer d'avis.
Son surnom.
Moi, je l'appelle la boule ou le diable. Parce qu'il va toujours arriver à me faire céder. Il va tellement argumenter et revenir à la charge jusqu'à ce qu'on cède, en fait. C'est pour ça que je dis toujours que c'est le petit dernier de la famille. Parce que je pense qu'on lui cède plus à lui qu'à ses frères.
Son péché mignon, son plat favori.
Bah, il adore les frites. Ça, c'est sûr. Frites mayonnaise, le gratin dauphinois, ça, il aime bien. Puis, tous les trois, c'est quand même beaucoup escalope à la crème avec du riz.
Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit?
Il nous disait qu'il serait fermier et policier. Mais ça sera compliqué, je crois.
Épilogue.
Dominique, le karaté sera olympique pour la première fois, malheureusement. Unique fois pour le moment, en tous les cas. Il a envie de marquer l'histoire de son sport, justement.
Oui, je pense qu'il y va pour gagner, ça c'est clair. Son but, c'est d'aller chercher la médaille d'or.
Votre regard, vous, de maman, sur l'homme qu'il est devenu?
Je suis quand même fière de lui, parce que je trouve qu'à 24 ans, déjà avoir refait sa maison, on va dire qu'il est resté dans le droit chemin, il est très simple et la tête sur les épaules.
Steven est à Tokyo. Sans vous, malheureusement, qu'avez-vous envie de lui dire aujourd'hui?
Ça, c'est trop compliqué. Donne tout. Donne tout ce que tu as. Je ne saurais pas quoi lui dire, en fait. De toute façon, ils le savent. Il n'y a pas besoin de mots, là. Ils savent. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit.
On est sûr, il va tout donner, Steven D'Acosta. Isabelle Langer, à qui la maman de Steven D'Acosta a confié des photos de l'enfance de son champion de fils. C'est à voir et à réécouter sur le site RTL.fr. Merci aussi à Dany Matouk pour la mise en onde. Enfin, je rappelle que Teddy Riner sera en studio dans On refait les jeux à 18h30 avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Dans un instant, vous prenez la parole. La vidéo d'Emmanuel Macron qui veut vous convaincre, vous les non-vaccinés, sur les réseaux sociaux, les motos, autorisé à nouveau à doubler entre les files de voitures ou encore les nouvelles mesures contre les féminicides. Vous traitez l'actualité jusqu'à 13h30.
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.